Chapitre 22. Dans la salle du conseil, les hautes fenêtres étaient ouvertes pour laisser entrer un peu d'air frais. Du coup, on entendait très bien le vacarme des soldats ennemis, de nouveau acharnés à boxer le mur d'enceinte. Les cheveux en bataille après l'attaque des magiciennes, Nietzsche était assise un peu à l'écart des autres. Quentin baissa les yeux sur le rouleau de parchemin déplié posé devant lui sur la table.
Qu'y a-t-il d'autre à l'ordre du jour ?
Demanda-t-il d'une voix assez forte pour retenir l'attention de ses pairs. À côté de lui, Damon sondait de grands livres comptables en quête d'on ne savait trop quoi. En face, Auron se curait comme d'habitude les ongles pour en chasser le sang coagulé, probablement. À côté de lui siégeait Olgia, la mère de Jed, récemment cooptée par les autres membres du Douma. Dirigeante de la guilde des soyeux, cette femme de tête arborait une longue chevelure brune striée de gris, nouée en queue de cheval par un ruban de soie. La réunion faisait du surplace depuis des heures. De plus en plus impatiente, Nietzsche écoutait le haut capitaine Stuart réciter la liste des gladiateurs qui avaient rejoint les forces combattantes en même temps que des milliers de citoyens ordinaires résolus à se battre pour leur cité.
« Très bientôt, nous aurons des forces suffisantes pour attaquer celles du général. » Si tout se passe bien, la supériorité numérique pourrait même changer de camp. Une offensive massive ferait des dégâts dans les rangs ennemis,
renchérit Damon.
Et en matière de pouvoir, Outros dispose de deux magiciennes contre nos nombreux sorciers.
Qui conduirait une pareille attaque?
Demanda Auron en jetant un coup d'œil au trône vide de Thora et de Maxime.
Tôt ou tard, nous devrons choisir de nouveaux chefs. Il est temps que les réunions du Douma ne se réduisent plus à de vains bavardages. Face à un siège, il faut bien plus qu'un ordre du jour.
Se levant, Nietzsche passa d'instinct une main dans ses cheveux dévastés.
Avant d'élire des chefs, nous devons... Non, vous devez compléter le Douma, en faisant en sorte qu'il ne soit pas exclusivement composé de nobles comme avant.
La magicienne fit un signe à Stuart qui fila chercher la personne qui attendait dans le couloir.
Nous vous avons déjà invité à nous rejoindre, Nathan et toi,
dit Lani.
Vous êtes les meilleurs candidats et votre don nous aidera beaucoup. Pourquoi vous entêtez-vous à refuser?
Nous n'intégrerons pas le conseil,
confirma Nietzsche.
Étrangers à Ildakar, nous ne comptons pas y rester.
Vous devez prendre entre vous des décisions équitables pour tous les citoyens de cette ville.
Cela dit, nous sommes prêts à vous aider.
Dans ce cas, qui proposez-vous?
Soupira Damon.
Il y a bien d'autres détenteurs du don à Ildakar, mais aucun de notre niveau.
Les émeutes ne vous ont donc rien appris,
riposta Nietzsche.
Pour être stable et assurer la liberté à tous, une société doit reposer sur une base très large. En d'autres termes, il est impératif que le Douma représente toute la population. Ildakar est-elle exclusivement peuplée de sorciers et de nobles? Il vous faut des représentants des négociants, des travailleurs et même des esclaves.
Rendel entra à l'instant même où Nietzsche achevait sa phrase. Loyal, déterminé et raisonnable, le vieil homme avait soigné Nietzsche après son duel perdu contre Thora, représenté par Adessa. Tous les anciens partisans de Masque Miroir le respectaient.
Bienvenue, Rendel. J'espère que tout le monde ici décidera de te nommer membre du Douma. Toutes les classes sociales doivent avoir droit à la parole.
Si Elsa ne cacha pas sa perplexité, Lani resta de marbre. Pour elle, ce n'était pas difficile, alors que Quentin, Damon et Olgia se rembrunirent.
C'est un esclave,
s'écria Auron.
Ici, nous essayons de sauver Ildakar.
Il y a plusieurs façons d'y arriver,
dit Nietzsche.
Et la ville aura de meilleures chances si tous ses habitants œuvrent ensemble à la victoire finale. Si Rendel siège au Douma, il parlera au nom des petites gens. Comme vous avez payé pour l'apprendre durant la nuit des émeutes, les pauvres peut-être de féroces combattants. Imaginez-les face aux soldats ennemis.
Quentin grogna d'agacement.
Un esclave n'a rien à faire parmi nous. Ces animaux féroces n'ont-ils pas tué assez de nobles? Hier encore, ils en ont décapité un. Comment peux-tu songer à les récompenser, magicienne?
Rendel avança, rouge d'indignation.
Je ne suis plus un esclave. Aujourd'hui, citoyen libre comme les autres, je parle au nom d'une multitude qui pourrait bien devenir votre pire cauchemar.
Ils nous menacent d'une autre révolte,
s'écria Olgia.
Ces derniers jours, rappela Auron,
Plusieurs nobles ont péri sous les coups de la populace. Comment se fier à un homme comme celui-là ?
Rendel parut sincèrement affecté par la tournure des événements.
Je parlerai à mes compagnons, exigeant qu'ils mettent un terme à la violence. Si vous écoutez nos revendications, j'aurai une bonne chance de focaliser sur Outros la colère des pauvres.
Et quel bien ça nous fera ?
Demanda Quentin. Nietzsche se tourna pour le défier du regard.
Vous êtes tous sourds. En échange d'un traitement équitable, Rendel vous offre une formidable force de frappe. Ne vient-on pas d'évoquer une attaque surprise contre la horde d'Outros ?
Nous ne pouvons pas refuser leur aide, dit Elsa.
Des siècles durant, nous leur avons demandé de porter Ildakar sur leur dos. C'est leur ville autant que la nôtre. S'ils se sentent dignement représentés, ils combattront pour la cause commune. À titre provisoire, cooptons Rendel afin de mettre un terme au trouble.
Si Outros entre en ville, dit Auron, il la rasera et nous tuera tous. Du coup, je préfère que les amis de Rendel, au lieu de nous égorger dans nos lits, combattent pour nous défendre. En d'autres termes, donnons un os à ronger aux esclaves et aux miséreux, histoire qu'ils ne nous menacent plus.
Rendel encaissa mal cette déclaration méprisante, mais Nietzsche intervint avant qu'il ait pu exprimer le fond de sa pensée.
C'est un début, mais très insuffisant. Le Douma doit aussi compter des représentants des négociants et des marchands. À Ildakar, toutes les catégories sociales ont le droit de se faire entendre. Si vous procédez ainsi, la cité, après la fin du siège, reposera sur de solides fondations. Qui sait, vous parviendrez peut-être à créer la société parfaite dont rêvait Thora.
Je persiste à dire que c'est risqué,
marmonna Quentin.
Une folie, oui,
renchérit Damon.
Non, ce n'est rien de tout ça,
lança Lani en se levant.
La chute de la Sovrena est le prologue à de nombreux changements. Rendel, je t'accueille volontiers au sein du conseil.
Je vote pour, dit Nathan, en supposant que ma voix compte. C'est bon pour moi,
souffla Auron. Olgia tira sur une de ses tresses, puis l'expédia derrière son épaule.
Je ne vois pas quel mal ça peut faire,
dit-elle.
À présent, si on passait à des sujets plus importants.
Désavoué, Quentin et Damon durent capituler.
C'est acquis pour l'instant,
lâcha Quentin.
En espérant que ce ne soit pas une erreur.
Des erreurs,
dit Lani.
Le Douma en commet depuis longtemps. Sinon, nous ne serions pas menacés ainsi. Et si Thora n'avait pas envoyé Ren en mission, une quête grotesque, nous aurions un grand sorcier de plus dans nos rangs.
Entre ses lèvres encore en partie pétrifiées, les mots sifflaient bizarrement.
« J'espère qu'il ne lui est rien arrivé, »
ajouta-elle. Satisfaite du vote, Nietzsche reprit la parole.
« Si je puis vous le rappeler, ce n'est pas une séance ordinaire, mais un conseil de guerre. Il faut prendre des décisions. Comment riposter à l'attaque des magiciennes d'Outros ?»«
Quelles sont nos options ?»
demanda Damon. Penchée en avant, Elsa posa les coudes sur la table.
« Eh bien, nous pouvons anéantir Outros et sa horde, mais ça ne semble pas très réaliste. Ou disperser ses soudards et les envoyer loin de chez nous. »«
Pour qu'ils dévastent l'Ancien Monde ?»
objecta Nietzsche.
« Ma mission ne se réduit pas à défendre les intérêts d'Ildakar. »
J'essayais de recenser les possibilités, sans préjuger de leur valeur.
Nous pouvons aussi nous rendre, ouvrir les portes et laisser entrer les loups dans la bergerie. »
Couvrant des exclamations indignées, Lani lança
« Une option que je préférais écarter !»
Elsa sourit.
« Dans ce cas, la solution c'est sans doute la quatrième possibilité. Négocier une paix équitable.
Pour Outros, ce serait aussi le plus raisonnable. Au nom de qui se bat-il désormais, puisqu'il n'a plus d'empereur, à quoi rime ce siège ?»«
C'est bien raisonné, »
admit Nietzsche.
Mais le général ne semble pas d'humeur à trouver un compromis, sinon ces magiciennes ne m'auraient pas attaqué.
« Si nous lui montrons notre force, »
dit Auron,
« il changera d'humeur. Je propose un assaut ciblé sur une partie de son armée, histoire de lui mettre un œil au beurre noir, quoi. Impressionnons-le, Et menaçons de pire encore s'il ne devient pas raisonnable. Nous ne sommes pas une quantité négligeable, après tout.
En tout cas, nous avons fait le tour des options, conclut Elsa.
Non, il y en a une autre,
objecta Quentin. Il consulta Damon du regard. À l'évidence, ces deux-là s'étaient concertés avant de venir.
Nous contrôlons la magie du sang, rappela Damon. Il suffit de reconstruire la machine, de tracer la forme de sortilège et de dénicher assez de gens prêts à se sacrifier.
Il marqua une pause pour permettre aux autres de bien assimiler ses propos.
Si nous réactivons le linceul de l'éternité, Ildakar sera de nouveau hors du temps et nous n'aurons plus rien à craindre du général Outros.
Après une suspension de séance bienvenue suite à la déclaration de Damon, Nietzsche monta au sommet de la tour du pouvoir afin d'observer l'armée ennemie. De si haut, elle eut le sentiment de voir un plateau de jeu géant. Au temps de sa toute-puissance, Jagang avait trouvé un moyen de se divertir en peaufinant ses aptitudes de stratège. Alors que l'armée impériale, sa domination sur l'ancien monde bien établi, fondait sur le nord pour attaquer Dara, le tyran disputait de nombreuses parties de Harker. Contre la maîtresse de la mort, bien entendu, parce qu'elle était le seul adversaire à sa hauteur. À l'époque, et malgré tout le mal qu'il lui avait fait, Nietzsche croyait en cet homme et en l'ordre impérial. Dans une zone dégagée du temps, les soldats traçaient le plateau de jeu du bout de leur lance. Ensuite, on faisait venir les pièces, des esclaves censés représenter les différentes armées en lice. Perchés sur de petites tours d'observation, Jagang et Nietzsche déplaçaient leurs pions qui n'avaient en aucune façon droit à la parole. Dès que la maîtresse de la mort perdait un coup, des soldats venaient décapiter la pièce perdante, une façon radicale de la retirer du jeu. Un jour, un des pions de l'empereur, condamné suite à une manœuvre brillante de Nietzsche, avait tenté de s'enfuir. Bien que les soldats les taillaient en pièces, Jagang, selon les règles qu'il avait édictées, avait purement et simplement annulé la partie. Puis, foudrage, il avait fait exécuter les pièces de Nietzsche et les siennes. Le maître de l'ordre impérial n'avait jamais été bon perdant. Après la boucherie, alors que son regard errait sur les cadavres, il avait marmonné « Que ça te serve de leçon. Lors d'une guerre, des désastres imprévisibles se produisent parfois. » Tandis qu'elle observait la horde ennemie, Nietzsche aurait donné cher pour qu'un de ces désastres frappe le général Outros et ses soudards. Dans le dos de la magicienne, Nathan entra dans l'impressionnant jardin qui couronnait la tour du pouvoir. Depuis qu'on avait retiré les filets installés sur ordre de Thora, toutes sortes d'oiseaux voltaient librement entre les arbustes, les arbres et les buissons en fleurs.
« Surtout, je ne voudrais pas te déranger, magicienne. As-tu trouvé une brillante solution à notre problème ?»«
Pas encore, mais j'y réfléchis. » Quelque temps plus tôt, dans ces mêmes jardins, Maxime, en grand secret, avait encouragé Nietzsche à se dresser contre Thora.
Mais le Douma doit décider en dernière instance. Je ne le dirige pas, et toi non plus.
Comme à son habitude, Nathan se gratta le menton.
Je sais, mais ça ne m'empêche pas d'avoir mon opinion. Contre une armée de cette taille, une attaque ciblée risque d'être inefficace. Selon moi, on devrait envoyer à Outros une autre délégation. Après avoir eu le temps de réfléchir à sa situation, il sera sans doute enclin à négocier. Son coup de sang n'était peut-être qu'une ruse. Depuis, nous avons vaincu ces magiciennes et montré notre force.
Oui, mais nous savons qu'il est indigne de confiance. Nathan, il s'en est pris à moi. Je ne peux pas laisser cette offense impunie. Il doit souffrir et une attaque surprise a des chances de succès si elle est bien préparée.
Levant les bras, Nathan invoqua son étrange fenêtre magique. Devant les deux amis, les soldats qui ressemblaient jusque-là à de lointaines fourmis devinrent des êtres vivants qui s'entraînaient, vaquaient à diverses occupations ou partaient en patrouille dans les collines. Alors que les images défilaient, Nietzsche leva un bras.
« Reviens en arrière. »« C'est quoi ça ?»
À la lisière du camp, une troupe très importante se dirigeait vers l'ouest. Une force d'invasion visant les montagnes ? Au nord, un autre groupe s'enfonçait dans la forêt en direction des villes minières. Au sud,
un troisième corps expéditionnaire avançait vers le fleuve et les basses terres.
« Il affaiblit son siège ?» marmonna Nathan.
Nietzsche trouva ça très inquiétant.
« Très peu de villes ou de villages peuvent résister à des forces pareilles. Imagine ce qui se passerait à Surplomb du Monde ou à Renda sur Bay. Les cités côtières comme Larikane ou Serimundi ne seraient pas mieux loties. Outros peut menacer tout l'ancien monde. »
Les poings serrés, Nietzsche sentit se former dans sa poitrine la glace noire qui remplaçait parfois son cœur. Richard lui avait confié une mission et elle ne pouvait pas s'en détourner.
« Il ne faut pas que ça arrive, sorcier. Pour garder Outros occupé, nous devons participer à la défense d'Ildakar. »
D'un geste, Nathan dissipa son sort de vision grossissante.
« Je suis sûr que tu nous sauveras, magicienne. Après tout, le destin du monde repose sur toi. C'est écrit dans mon livre de vie. »
« Je me méfie des voyantes et les prophéties n'existent plus. Pourquoi devrions-nous croire à celle-là ? »
Sans répliquer, Nathan sortit son livre de vie comme pour prouver que Rouge avait bel et bien écrit ce qu'il disait. Ouvrant le volume à la première page, il lut à haute voix les lignes que Nietzsche et lui connaissaient par cœur. Kohladère est très loin au sud dans l'ancien monde. À partir de là, le sorcier verra ce qu'il lui faut pour redevenir entier, et la magicienne devra sauver le monde. Peu après que Richard les eut nommés ambassadeurs itinérants, Nathan et Nietzsche avaient rencontré Rouge au plus profond des terres noires. Soucieux d'immortaliser son histoire, l'ancien prophète désirait que la voyante fabrique pour lui un livre de vie. Rouge avait satisfait sa demande, mais pas exactement comme il l'attendait, rien de très étonnant avec une femme de ce genre.
« Magicienne, nous ne pouvons pas négliger totalement ces mots. Même si ça ne nous apparaissait pas très clairement à l'époque, Rouge avait raison. Je suis redevenu entier, comme elle le prévoyait. Toi, il te reste encore à sauver le monde. C'est écrit là-dedans. »
Nietzsche prit le livre et le referma.
« Les prophéties n'existent plus. »
répéta-t-elle.
« Qui a parlé de prophétie ?»
Nathan récupéra son livre et le remit où il était.
« Et la magicienne devra sauver le monde. Un simple conseil avisé, peut-être. »
Les deux amis continuèrent à observer les mouvements de l'armée adverse. Même si elle doutait qu'il s'agisse d'une prémonition, Nietzsche ne contestait pas radicalement la phrase de Rouge.
« Si je sauve le monde, ce sera selon mes propres termes. »«
C'est toujours préférable, je te l'accorde. Sache que je ferai mon possible pour t'aider. »